7h27. Depuis qu'on a annoncé lundi ce qu'on appelle des mesures d'atténuation en vue des travaux majeurs du REM dans le secteur de Deux-Montagnes et l'impact aussi pour Mascouche, beaucoup d'auditeurs sont inquiets. Inquiets du temps qu'il faudra pour se rendre au centre-ville, par exemple, donc pour partir de la maison et aux heures de pointe aller travailler. On sait qu'il y a des estimés qui ont été faits. Vous m'écrivez nombreux. Je vais faire le maximum le tour de la question avec le temps qu'on a ce matin avec nos deux invités que je vous présente. D'abord, Sarah Bensadoun, qui est du ministère des Transports et de Mobilité également. Bonjour.
Bonjour.
Et Arud Chitiliane, qui est de la Caisse de dépôt et de placement du Québec Infra. Monsieur Chitiliane, bonjour.
Bon matin, Sarkan.
Je vais commencer avec vous. Deux ou trois questions rapides. D'abord, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans le respect de l'échéancier pour ce qui est du REM?
Oui.
Il n'y a aucun retard, il y a...
Absolument pas. Les travaux avancent dans toutes les communautés et sont même visibles sur la rive sud, dans l'ouest de l'île, à Mont-Royal, à Laval. Donc, on est vraiment en synchro avec l'échéancier.
OK, puis même pas en avance un peu?
En avance, mais on va toucher du bois, mais ça avance bien. Ça
OK.
Avance bien.
Et la livraison va se faire quand?
Première antenne sur rive sud, 2021, fin 2021. Avril 2022 jusqu'à Duruisseau et après en 2023 en séquence, donc l'aéroport ouest de l'île et de Montagne, fin 2023.
Est-ce que l'hypothèse de modifier le calendrier de construction, même si ça voulait dire, par exemple, un retard, pour éviter qu'on se retrouve avec des problèmes comme on a actuellement en vue là, pour le mois de janvier à Deux-Montagnes, ça a été regardé?
Écoutez, M. Arcan, le 28 février dernier, j'ai fait un mea culpa au nom de l'organisation, parce qu'en 2016, on avait justement dit que c'était possible de travailler sur l'emprise ferroviaire tout en construisant les stations, tout en modernisant les emprises. Après des multitudes d'études, on a regardé ça et d'un point de vue d'opération pour les trains, de fonctionner en ligne simple, c'est extrêmement difficile. Et d'un point de vue de sécurité pour les travailleurs, d'avoir une emprise ferroviaire électrifiée à un mètre d'un chantier, c'est très, très, très complexe. Donc, ce qui a été prévu, c'est d'optimiser le plus possible les travaux. Donc, depuis 2018, on travaille le plus possible. À Mont-Royal, on a avancé, on a mis même les fondations des stations. Et là, on est rendu à un point qu'on doit fermer pour construire surtout les deux stations à l'intérieur du tunnel, donc Édouard-Montpetit et McGill, et surtout moderniser le tunnel, parce que le tunnel date de 100 ans. Il faut mettre des ventilateurs, des câbles électriques, des équipements de télécommunication. Donc, pour comprimer l'échéancier, tout a été regardé. Et ça, vos écouteurs peuvent vraiment compter sur nous. On n'a pas laissé une pierre qu'on n'a pas tournée pour regarder comment comprimer ça.
La question qui leur vient à l'esprit, c'est de dire, est-ce que, là, vous me parlez de contraintes technologiques, si on veut, ou techniques,
oui.
Est-ce qu'il y a aussi une question d'argent? Est-ce qu'on aurait pu éviter ce qu'on va vivre en janvier, mais que ça aurait coûté plus cher?
Pas du tout, parce que pour nous, on a regardé le projet et on a regardé ce qui était faisable en respectant les échéanciers, en respectant également les normes de sécurité et surtout en comprimant le plus possible les travaux et l'échéancier qu'on présente aux utilisateurs et à l'ensemble des Montréalais, c'est le meilleur qu'on peut faire.
Madame Bensadoun, nous avez annoncé des temps estimés qui vont s'ajouter au temps habituel. Ce qui veut dire quoi? Quelqu'un qui part, mettons, de Deux-Montagnes, là, qui vient travailler au centre-ville, vous estimez que ça va lui prendre combien de temps de plus?
En termes de temps de parcours avec les correspondants, ça pourrait aller jusqu'à 1h20.
1h20 au lieu de?
Actuel, c'est 45 minutes.
Donc, ça veut dire qu'on rajoute pratiquement quoi? 40 minutes?
Une demi-heure, 35-40 minutes, oui, absolument.
OK. Quand vous faites cet estimé, vous vous basez sur quoi pour dire que ça va prendre 1h20?
Alors, on a déjà les horaires de train. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà savoir, la distance entre Deux-Montagnes jusqu'à Bois-Franc. Ensuite de ça, la distance d'autobus entre Bois-Franc et Côte-Vertu, parce que c'est l'itinéraire qu'on va privilégier. Il se fait sur voie réservée. Donc, on fait des tests à différents moments de la semaine, à différents moments de la journée aussi, pour faire des comparatifs. Et ensuite de ça, le parcours entre la station Côte-Vertu et Bonaventure, ça aussi, c'est du connu, parce que ce sont déjà des opérations courantes. Ensuite de ça, il y a tout le temps de correspondance. Donc, descendre du train à Bois-Franc, monter dans les autobus, les navettes qui vont emmener vers Côte-Vertu. Il va y avoir une tournante d'autobus pour pouvoir transporter tous ces usagers-là. Et pour ceux qui descendent à la fin du train, ça pourrait prendre donc jusqu'à 15 minutes.
OK, mais vous allez les prendre où, les autobus?
Alors, les autobus, il y en a déjà 50 qui appartiennent à la STM. Donc, ce sont des nouveaux autobus qui devaient recevoir l'année prochaine. Il y en a un certain nombre qui a été devancé à la fin de l'année, donc fin du mois de décembre.
Mais est-ce que ça va affecter le service ailleurs dans la mesure où déjà, on sait que chaque matin, il manque des autobus sur la route?
Alors non, ce sont vraiment de nouveaux autobus. Donc, on ne vient pas déshabiller le reste du réseau pour pouvoir transporter ces usagers-là. L'objectif des mesures d'atténuation, donc il y a un budget qui est attitré à ça, 192 millions. C'est justement pour pouvoir pallier à ce type de besoins et de ressources.
Je vous donne l'exemple, surtout c'est au mois de janvier. Là, température, là, je ne parle pas d'une tempête, mais on est en hiver. Là,
oui.
Il y a une différence entre quitter, prendre, le train, l'autobus à 5 heures le matin et de le prendre à 7h30 en pleine heure de pointe. Il va y avoir des différences de délai. C'est inévitable.
Oui, le temps de parcours, dépendamment du moment auquel on part, oui, pourrait définitivement varier.
Et ça pourrait prendre quoi? 1h20, 1h30, 1h40 pour faire le parcours qu'on fait actuellement beaucoup plus.
Alors, ça dépend. Si on prend une navette en dehors des heures de pointe, donc à deux montagnes, à 5h30 du matin ou à 6h, ça va prendre à peu près 1h05, 1h10 pour pouvoir arriver jusqu'au centre-ville. Si on la prend à 10h du matin, ce même trajet va faire seulement 50 minutes. Donc oui, le temps de parcours va changer et c'est pour ça aussi qu'on demande aux gens, lorsque possible, de réaménager leurs emplois du temps.
Mais est-ce que vous allez arriver avec un train, là, par exemple?
Oui.
Et là, il y a combien de passagers, théoriquement, au maximum, qui peuvent descendre du train?
C'est environ 1200 personnes.
Puis là, vous allez être capable de prendre charge de tout ce monde-là avec des autobus?
Absolument.
En combien de temps?
En moins de 15 minutes.
J'ai un doute.
Ah ben je vous assure, c'est ça, on a fait les calculs et refait les calculs, on a fait des tests, des estimations, c'est calculé, c'est en moins de 15 minutes, un train va être, tous les passagers d'un train vont pouvoir déjà se rendre à Côte-Vertu.
La ligne orange qui est déjà super achalandée.
Oui.
On va augmenter l'achalandage.
Oui. On va augmenter l'achalandage, mais pas dans la branche Est. Donc, la partie qui est très sollicitée, c'est entre Montmorency et Berry, particulièrement entre 7h30 et 8h30 le matin. Donc, on sait déjà que ce secteur-là, on ne va pas rajouter des gens. Et c'est pour ça que toutes les mesures d'atténuation qu'on a préparées, c'est justement pour dévier la circulation sur la branche Ouest, donc à partir de Côte-Vertu jusqu'à Bonaventure. Sur ce côté-là de la ligne orange, il y a encore de la capacité, il y a de la place pour pouvoir accueillir tout ce flot de nouveaux usagers. Il y a aussi le transfert vers la ligne bleue pour les usagers de Canora Mont-Royal. On va aussi rediriger les gens de Mascouche vers Radisson et non pas vers Sauvé. Donc tout ça, ce sont des mesures qu'on va mettre en place pour pouvoir alléger.
Là, je veux pas parce qu'on est un peu dans la théorie, là, on pense que ça va être comme ça, puis vous me dites, on a fait... Mais je suis convaincu qu'il y a peu d'auditeurs vous croient. Là. Il y a des gens qui me disent, on ne tient pas compte du délai, on ne tient pas compte du fait que le métro est bondé, on ne tient pas compte. Il y a des gens qui se disent, je fais le calcul, là, ça va être plus vite en auto.
Non, ça ne sera pas plus rapide en voiture, ça je peux vous l'assurer. Nous, le Mobilité Montréal, ce n'est pas le ministère des Transports et ce n'est pas juste le REM non plus. C'est aussi la STM, c'est la STL, c'est le réseau de transport de Longueuil, c'est EXO. Donc ce sont des sociétés de transport qui ont leur expertise, qui savent ce qui se passe dans leur réseau.
Mais je reviens là, aux autobus. Vous m'avez dit combien d'autobus de plus?
Sur le réseau de la STM seulement, on est à 50.
50. Il y a 1500 personnes qui vont arriver à quelle fréquence, mettons?
Aux
demi-heures.
Oui.
Puis vous allez être capable de prendre ces 1500-là aux demi-heures puis les rouler dans les autobus.
Oui, parce qu'il y a un nouveau quai d'embarquement justement à la station Bois-Franc qui va être en construction au cours des prochaines semaines pour pouvoir accueillir ce nouveau flot d'usagers-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir une boucle d'autobus. Donc, il va y avoir 3 bus à la fois qui vont venir, embarquement par toutes les portes. Il n'y aura pas de paiement ni quoi que ce soit. On fait monter les gens et ensuite de ça, les 3 premiers bus partent et il y en a 3 autres qui se rajoutent. Et ça va continuer comme ça jusqu'à ce que l'ensemble des passagers soient transportés.
OK, 2 questions. Ça va durer combien de temps, enfin, ces mesures-là, on en a pour combien de temps vivre ça?
Alors, les mesures d'atténuation sont faites pour durer jusqu'à la fin des travaux de construction du REM, donc jusqu'en 2023. Maintenant, ce qu'on a présenté lundi, ça va s'appliquer jusqu'à la mi-2021. Il y a certaines mesures qu'on a qui vont poursuivre jusqu'en 2023, mais on va annoncer aussi d'autres choses au courant de l'année prochaine et 2021.
Ça veut dire que si j'habite dans ce coin-là, puis pour aller travailler, hypothèse centre-ville de Montréal, là, comme beaucoup de gens... J'en ai pour 3 heures par jour à me promener, là.
Ah, mais on est tout à fait conscient que le temps de parcours, il va augmenter. Ça, c'est pas quelque chose qu'on vient nier. On sait qu'il va y avoir des répercussions importantes. Et c'est pour ça que tout ce travail-là qu'on a fait, c'est justement pour le minimiser le plus possible.
Est-ce que, en terminant, vous avez un plan, appelons ça, d'urgence, au cas où, mettons qu'en janvier, on s'aperçoit que malgré tout ce que vous avez fait comme estimé, là, dans les faits, c'est pas ça qui arrive.
C'est évident qu'on a un plan de contingence. On a aussi une cellule tactique qui va être en place à partir du 6 janvier.
C'est quoi le plan de contingence?
Ah ben, un plan de contingence, je peux pas le rendre public, hein, parce que c'est justement pour pallier aux situations d'urgence et pour pallier aussi aux ajustements.
OK, mais si vous vous rendez compte que c'est pas 40 minutes, mais je sais pas, moi, c'est une heure de plus, allez-vous déployer des mesures additionnelles?
Ce n'est pas impossible, bien sûr, absolument. C'est pour ça, justement, qu'il y a la cellule
tactique. Et là, vous me dites que vous le savez aujourd'hui, ce que vous feriez dans ces cas-là.
Oui, absolument. Le plan de contingence, c'est quelque chose qui est connu. C'est préparé à partir du moment qu'on met en place des mesures d'atténuation ou des travaux ou quoi que ce soit. On a toujours un plan B, C, D, E.
OK. Monsieur Chitilian, je lis dans la presse ce matin que les redevances qui sont payées par les promoteurs là, qui construisent autour du REM, les montants sont importants. On est à combien, là? 23 millions?
23 millions,
Et au total, vous prévoyez aller chercher combien?
On a un plafond de 600 millions sur 50 ans. Donc, sur 50 ans, et là, on a déjà 23 millions. Donc, c'est signe qu'il y a beaucoup de développement, surtout qui se fait sur la rive sud. Et on voit également, et on parle souvent des chambres de commerce à travers le territoire projeté du réseau du REM, et on nous dit que même les locaux commerciaux, il y a des taux de vacances records dans l'ouest de l'île. C'est presque 1 % seulement la vacance des locaux.
Mais là, ça veut dire que... Puis là, vous prenez l'exemple de Brossard, là, où ouais. C'est bon. Ça veut dire qu'au pied carré, il y a une redevance que le promoteur doit payer, que, bon, l'acheteur va payer éventuellement. Est-ce que ça ne vient pas démontrer que le REM va aussi peut-être aider pour l'heure de pointe, comme on dit, là, pour la congestion, mais c'est aussi un facteur d'étalement urbain? C'est-à-dire que ça amène les gens à aller autour des stations, comme à Brossard.
Vous savez, le REM, c'est 26 stations... C'est avant tout un réseau de métro de surface qui a une fréquence de 2 minutes et demie sur la branche centrale. Et c'est un réseau pour le cœur de Montréal, parce qu'on a les stations McGill, on a les stations Édouard-Montpetit, on a les stations dans la ville de Mont-Royal, et également dans le secteur de Saint-Laurent, secteur Technoparc. Mais également, il y a une importance pour relier le cœur de Montréal avec sa périphérie. Donc oui, on va venir renforcer et ajouter un réseau de métro additionnel dans le cœur de Montréal, mais également il va y avoir du développement autour des stations, que ce soit à Laval, de Montagne, dans l'ouest de l'île et à Brossard.
Est-ce qu'il y a des plans d'expansion?
Il y a des études présentement, donc on va aller étudier la possibilité d'extensionner jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette étude est en cours, donc on va avoir des résultats en début d'année. Il y a une étude également pour regarder un prolongement vers Laval. Mais surtout, il y a un projet structurant qui a été demandé par le gouvernement du Québec, c'est de regarder la desserte de l'est de Montréal, surtout pour aller jusqu'à Pointe-aux-Trembles et un peu plus, et aussi vers Montréal-Nord. Et récemment,
mais il faut que ce soit payant, il faut que ce soit rentable.
Mais ce n'est pas juste une question de rentabilité, M. Arcand. Avant tout, il faut regarder si techniquement c'est faisable. Deuxièmement, il faut regarder en termes d'achalandage s'il y a un apport au réseau global. Par exemple, la branche est du réseau de Montréal, ligne orange, est saturée. Est-ce qu'un réseau structurant de l'est peut venir enlever de la pression sur la branche est? Donc, toutes ces études-là sont là pour ça. Et après, c'est une proposition complète qui est faite au gouvernement du Québec.
Oui, mais ça, je comprends. Mais il faut qu'il y ait une rentabilité dans ce projet-là. Il ne faudrait pas déficitaire là, en opérant ça.
Mais rentabilité et surtout une accessibilité du prix de revient par passager kilomètre pour le gouvernement aussi et pour les payeurs aussi.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Sarah Bensadoun du ministère des Transports et Héro Chitilian, donc de la Caisse de dépôt et placement du Québec Infra, 7h40.